s'est passé, en fait, c'est que j'ai guéri très rapidement mes blessures et je n'ai jamais souffert. J'ai eu les différents services qui défilaient dans ma chambre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai guéri d'un coup. Donc ça a fait la une de l'hôpital, on va dire. Et les gens qui rentraient de vacances ou autres voulaient voir le cas et voulaient voir si c'était vrai que ça pouvait exister.
Depuis la nuit des temps, ils seraient des millions à avoir vécu l'impensable. Ils seraient des millions à être revenus de la mort. Un accident de la route, une opération qui tourne mal, une balle perdue, un infarctus. Ils ont basculé de l'autre côté. Pendant longtemps, ils n'ont pas osé parler. Mais aujourd'hui, ils témoignent.
J'avais l'impression que là-bas, c'était vraiment la vraie vie. J'étais dans un état de plénitude, de bonheur. Pour moi, c'est ça, le paradis.
Que ressentirons-nous après notre mort? Que vivrons-nous? Que verrons-nous?
Personne ne revient indemne d'une expérience de mort imminente.
Depuis des siècles, les mêmes témoignages de retour de l'au-delà se multiplient.
En fait, c'est un phénomène qui est aussi, probablement aussi vieux que l'humanité. Hein.
C'est une expérience qui dépasse tous les clivages, religieux ou philosophiques.
Faut-il y croire? Quelles sont les preuves d'un tel phénomène? Médecins et scientifiques ont décidé de mener l'enquête.
Mais ce n'est pas parce que on n'explique pas le phénomène qu'on doit le négliger ou dire qu'il n'existe pas. Il existe.
On est loin de tout connaître sur le cerveau, on est loin de tout connaître sur la conscience.
Historiquement, chaque fois qu'on a dit « c'est impossible à comprendre », on s'est trompé.
Ces hommes et ces femmes ont-ils réellement vu ce que nous connaîtrons tous un jour, la vie après la mort? Y a-t-il une vie après la mort? Notre enquête débute à Decazeville, près d'Aurillac. Jean-Pierre Postel est anesthésiste réanimateur à l'hôpital de cette petite commune du Sud-Ouest. Il y a encore quelques années, ce médecin avait du mal à croire qu'on puisse revenir de l'au-delà. Mais depuis, un événement l'a fait changer d'opinion. En 2007, le docteur Postel est près de son père pour vivre avec lui ses derniers moments. Il est accompagné de sa femme et de son fils. À l'instant précis où survient le décès de son père, Jean-Pierre Postel éprouve une sensation très étrange.
J'ai été entraîné progressivement, mais c'est mental, dans un tunnel. J'ai vraiment eu l'impression d'un tunnel, attiré vers une lumière, en compagnie de mon père, avec cette sensation mais de plénitude absolue. On était tellement bien. Et puis, ça s'est arrêté là.
Depuis, le médecin s'est intéressé à la question et il s'est rendu compte que revenir de la mort est quelque chose de beaucoup plus fréquent qu'on ne l'imagine. D'ailleurs, cela porte un nom. En anglais, on appelle ça une NDE. On le traduit en français par EMI. Expérience de mort imminente. Un phénomène qui remonterait à la nuit des temps.
Qui a été le premier à parler d'une expérience de mort imminente? Eh bien, c'est tout simplement Platon dans La République, qui décrit, lors d'un combat, avoir vécu une expérience de mort imminente. Ensuite, il y a un tableau de Jérôme Bosch qui représente le tunnel, un ange, et la lumière au fond du tunnel, telle que décrite dans les expériences de mort imminente.
Un mystérieux tunnel, une lumière aveuglante. Faut-il croire à ces œuvres qui datent de plusieurs siècles? Pour y répondre, nous avons interrogé les plus grands spécialistes de la question. Neurologues, chercheurs, docteurs en biologie moléculaire. Mais aussi des femmes et des hommes qui affirment être revenus de la mort. On les appelle des expérienceurs. Et tous, sans exception, racontent un voyage à peine croyable. Un voyage dans l'au-delà. Nicole Dron est une expérienceuse. Elle dit être revenue de la mort en 1968. À l'époque, cette jeune mariée s'installe à Saint-Quentin, en Picardie, avec son mari, Michel. À l'arrivée de leur second enfant, de sérieuses complications médicales vont mettre sa vie en péril.
D'après ce qu'on m'avait dit, l'accouchement s'était bien passé, mais il était resté du placenta. Et donc, 3 semaines après, j'ai fait une grave hémorragie. Je suis donc rentrée à l'hôpital avec 9 de tension. On m'a mise sur un fauteuil roulant. Et le lendemain, je rentrais dans le bloc opératoire pour un curetage. Donc, mon mari me dit, à ce moment-là, je me rappellerai tout le temps, « T'en fais pas, va, tout va bien se passer. On t'attend dans la salle d'attente. » Ce que j'avais peur, c'est qu'on m'ouvre, si on devait m'ouvrir, sans être anesthésiée suffisamment. Je me rappelle, je vais avoir dit, « Oh là là, docteur, surtout, si vous devez m'opérer, attendez bien que je sois endormie. » « Oui, oui, ma petite dame, n'ayez pas peur, comptez. » J'ai compté jusque 7, je me rappelle. Et je ne sais pas si j'ai eu cette expérience au bout des 7 secondes ou si ça a été plus tard, je ne peux pas le dire exactement. Mais à un certain moment, je me suis trouvée au plafond.
En réalité, l'opération tourne au cauchemar. Et le cœur de Nicole s'arrête de battre pendant 45 secondes. 45 longues secondes pendant lesquelles Nicole affirme avoir connu la mort. Et pourtant, malgré l'intensité de cette expérience, à son réveil, elle décide de se taire.
Je ne sais pas si c'est un instinct de préservation, de conservation qui m'a inspirée. Mais je me suis dit, mais je ne suis pas partie de l'autre côté avec un appareil photo. Comment ils peuvent comprendre tous ces gens-là? J'ai aucune preuve à leur apporter.
De peur de passer pour une folle, pendant plus de 8 ans, Nicole garde son secret pour elle. Mais un jour, elle tombe sur un livre qui va changer le cours de son destin. Son titre l'interpelle, « La vie après la vie ». À sa lecture, elle comprend qu'elle n'est pas la seule.
Je n'étais plus toute seule, enfin. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est que la solitude d'une personne qui a vécu ça, qui ne peut pas en parler, parce que si elle en parle, elle risque de se faire considérer comme une illuminée quelque part. C'est dur à porter une telle expérience. C'est magnifique, ça change la philosophie de la vie, mais en même temps, c'est difficile à porter. Et là, d'un seul coup, on n'est plus seul.
Ce livre a été écrit par un médecin américain, le psychiatre Raymond Moody. Il est le premier scientifique à étudier ce phénomène hors norme. Nous sommes en 1975 et à l'époque, personne n'imagine possible de revenir de la mort.
Quand Raymond Moody était étudiant en médecine, il avait observé auprès de patients des récits qui l'interpellaient, effectivement. Donc il a recueilli des témoignages.
Il a compilé plusieurs dizaines de témoignages, il en a extrait les grandes lignes, et il a défini l'expérience par elle-même, si vous voulez. Même si personne ne vit la même expérience, globalement, toutes les expériences rentrent dans un schéma.
Et il a publié ce livre, « La vie après la vie », publié à plus de 13 millions d'exemplaires.
Ça a été un succès planétaire. Il a été traduit, je crois, en 17 langues. Il a lui-même été inondé de courriers. Enfin, des gens l'ont contacté du monde entier en disant « Mais c'est exactement ce que j'ai vécu. Personne n'en parlait. Je pensais que j'étais seule au monde. » Donc ça a eu un impact très fort, déjà, je dirais, pour les expérienceurs. Ça a été une libération. C'était tout d'un coup, voilà, la parole était libérée. On pouvait en parler.
13 millions de lecteurs se sont passionnés pour ce livre. Cela signifie-t-il que les expérienceurs se compteraient par millions ?
Alors, il y a eu un certain nombre de sondages qui ont été réalisés dans le monde. C'est-à-dire qu'on a systématiquement interrogé des personnes qui avaient été ranimées suite à un arrêt cardiaque pour savoir si elles avaient vécu quelque chose de particulier. Et là, les différentes études, on va dire, ça tourne autour de 10-15% des personnes qui rapportent avoir vécu une expérience de mort imminente. Donc, c'est quand même pas négligeable.
Dans les premiers temps, on croyait que c'était une expérience assez exceptionnelle.
Et actuellement, d'après les dernières estimations dont j'ai eu connaissance, on estimait qu'il y avait environ 30 millions de personnes à avoir fait cette expérience en Europe et environ 20 millions aux États-Unis. Donc on est maintenant devant une masse considérable, pas de témoins, et ça donne une bonne base pour les enquêtes.
Plusieurs dizaines de millions de personnes seraient revenues de la mort en moins de 50 ans. Autant de destins différents qui répondent à la question que nous nous sommes tous posés. Que se passe-t-il après la mort? Et tous racontent en détail les différentes étapes de ce processus surnaturel. La première étape de l'expérience de mort imminente, Jean Morzel s'en souvient très bien. Son histoire commence en 1949. À l'époque, il a 20 ans et il fait son service militaire près de Hoche, dans le Gers. Lors d'un exercice, Jean prend une balle perdue dans le foie. Entre la vie et la mort, il est immédiatement évacué vers l'hôpital pour subir une opération.
J'ai été amené à l'hôpital de Toulouse, l'hôpital Larrey, où j'étais obligé d'être opéré d'urgence. Et la seule chose dont je me rappelle, c'est que j'ai senti un moment le froid sur mon visage, et c'était le masque que me mettait le chirurgien, et je me suis endormi, non pas d'une manière paisible, mais je suis tombé dans un trou. Et au bout d'un certain temps, je me suis réveillé en haut d'une pièce que je ne connaissais pas, où on opérait une personne sous un drap, avec des gens qui s'affairaient autour de lui. Et moi, je me trouvais en haut, surpris, étonné, mais nullement craintif. Je n'avais aucune crainte, j'étais relax, comme on pourrait dire de nos jours.
Cette sensation étrange s'appelle la décorporation. Et Nicole aussi l'a vécue.
Maintenant, on emploie des mots savants, des corporations, etc. Je n'ai pas le souvenir de ça. Je me souviens simplement d'être au plafond, de voir de tous les côtés à la fois. J'avais vraiment une vision panoramique de 360 degrés. Surtout, de me sentir vivre, exister au-delà de mon corps. Et puis voilà, je me regardais, mon corps était tendu là. Je n'étais pas blanche, non, j'étais cadavérique. Alors, je me suis regardée, je me suis dit, « Qu'est-ce que t'es moche, ma fille !»
Le premier étonnement passé, j'ai voulu voir ce que faisait ce chirurgien. Et donc, je me suis senti brusquement projeté à la pointe du scalpel du chirurgien. Alors là, je me suis rendu compte que j'évoluais uniquement par ma pensée. Je voulais monter, je montais, je voulais descendre, je descendais à droite, à gauche, etc. Et à un moment donné, je me retrouvais près d'un mur et je suis allé vers ce mur. Au moment où je suis arrivé contre le mur, et ma grande surprise a été que je suis passé à travers ce mur.
Je ne me suis pas tardée dans la salle d'opération, uniquement parce que j'y ai pensé à mon mari, à mon beau-père. Instantanément, je suis près d'eux. Je prends conscience de traverser les murs, mais on n'a même pas le temps de réfléchir, ça se fait. Et dans cette salle d'attente, j'ai vu mon beau-père qui se faisait du souci, j'ai mis ma main sur son épaule pour le rassurer. Je me rappelle avoir mis ma main, et ma main a traversé son corps. Je les voyais, mais ils ne me voyaient pas du tout, j'étais transparente pour eux. Et là, j'ai ressenti comme une sorte de désespérance.
La décorporation serait donc la première étape de la mort. Mais peut-on réellement flotter au-dessus de son corps? Pour le savoir, nous partons à l'université de Liège, en Belgique, à la rencontre d'un chercheur reconnu dans le monde entier, le neurologue Steven Lauries.
Comment expliquer que certains de ces personnes qui ont une expérience de mort imminente vont traverser les murs, vont voir des choses impossibles à percevoir de leur point de vue physique. Je pense que c'est très difficile, je pense que c'est fascinant, mais le défi, c'est d'essayer de l'expliquer.
Et justement, il y a une dizaine d'années, deux neurologues ont fait une découverte aussi imprévue qu'étonnante.
qu'ils ont découvert par pur hasard quand Dr. Blank stimulait une partie ici du côté droit au milieu du cerveau. Cette femme lui a dit « là, j'ai quitté mon corps » et il a pu le reproduire et je pense que c'est extrêmement intéressant.
Élément troublant. La décorporation pourrait donc être provoquée sur une personne en bonne santé grâce à de simples électrodes.
Donc de là, on a tout de suite dit, on a trouvé le siège de la sortie de corps. C'est dû finalement à un dysfonctionnement de l'activité cérébrale dans cette région.
Peut-on affirmer pour autant qu'il s'agit d'une simple réaction du cerveau ? Jean-Jacques Charbonnier est anesthésiste réanimateur à la clinique Saint-Jean de Toulouse. Il s'intéresse depuis plus de 20 ans aux expériences de mort imminente. Et pour lui, on ne peut pas comparer la décorporation provoquée par une mort imminente avec une décorporation provoquée scientifiquement.
Ce n'était pas une sortie de corps, c'est-à-dire que les personnes étaient capables de voir leur corps comme si elles étaient situées dessus, dessous ou sur le côté, mais incapables de décrire autre chose. Ce qui se passe à distance, dans une autre pièce, dans une salle d'attente, dans un autre bloc opératoire ou même dans un appartement situé à plusieurs kilomètres de là. Là, vous pouvez stimuler toutes les zones du cerveau que vous voulez, vous n'obtiendrez jamais ça. Et ça, c'est bien la preuve que c'est autre chose. On appelle ça la vision otoscopique externe. Ça n'a rien à voir avec la sortie de corps d'une expérience.
Et ce n'est pas tout. Cette mystérieuse sensation de décorporation pourrait nous arriver à tous dans bien des cas.
Il n'est pas nécessaire de vivre un arrêt cardiaque pour connaître cette expérience de mort provisoire.
Dans un bon nombre de cas, le phénomène peut se déclencher sans qu'il y ait aucun danger, aucune maladie, aucun accident, ni risque d'accident, simplement dans un moment de fatigue, de relaxation, quelquefois de méditation, chaque fois que nos sens sont un peu déconnectés du monde ambiant.
Parfois même pendant l'orgasme, on peut avoir ces expériences extraordinaires et quand on utilise nos échelles, on voit qu'au niveau de la phénoménologie, du vécu subjectif, c'est très proche, c'est les mêmes histoires, les mêmes dimensions que ces patients qui ont vraiment eu un coma, un arrêt cardiaque.
Mais ce sentiment de sortir de son corps pourrait également se produire lorsque nous avons l'impression que nous allons mourir.
75% en fait des personnes qui racontent une telle expérience l'ont vécu soit au cours d'une maladie qui peut être grave mais pas forcément mortelle, ou à la suite d'une overdose, ou pendant une anesthésie mais qui n'avait rien de potentiellement mortel, soit au moment d'avoir un accident comme dans les Fear Death Experience, et l'accident est évité de justesse.
La décorporation est-elle un phénomène paranormal ? Pour le déterminer, des chercheurs américains ont eu une idée.
Il y a deux équipes qui ont équipé des salles d'opération avec des cibles près du plafond, qui sont donc pas visibles depuis la table d'opération, dans l'espoir que dans la bonne salle d'opération, une personne aurait un problème, un arrêt cardiaque ou quelque chose qui lui ferait vivre une NDE, que dans cette NDE, il y aurait une sortie de corps, que dans cette sortie de corps, la personne se trouverait au bon endroit pour voir la cible, qu'elle la verrait, qu'elle s'y intéresserait, qu'elle la mémoriserait et qu'ensuite, elle rapporterait l'information au personnel qui a assisté à l'opération.
À ce jour, ce protocole américain n'a pas encore donné de résultats probants. Mais les chercheurs ne se découragent pas pour autant. En France, à l'hôpital de Decazeville, dans le sud-ouest, depuis que le docteur Postel a changé d'avis sur la vie après la mort, lui aussi s'est mis en tête de trouver des preuves. Il a même mis en place son propre protocole et tout repose sur de simples enveloppes.
Imaginons que ça, ce soit l'objet qui soit à voir par le sujet s'il se décorpore et va voir à travers les murs ou à travers une enveloppe, on va cacher dans une enveloppe qui sera peut-être dans une couleur très voyante, cachée quelque part dans le bloc opératoire. Ça peut être un orange flashy ou fluo. Et puis, si la personne dit « Tiens, j'ai eu l'attention attirée pendant ma décorporation, j'ai vu une enveloppe orange, j'ai été curieux de voir ce qu'il y avait à l'intérieur, et j'ai vu telle chose. Si cette chose cachetée par huissier n'est connue que de l'huissier lui-même, on avance. »
Mais pour l'heure, ce protocole non plus n'a rien donné.
C'est encore non vérifié actuellement. C'est tout ce qu'on essaye de faire, d'essayer de vérifier.
Ceux qui disent revenir de la mort ne doutent pas un instant. D'ailleurs, leurs souvenirs sont intacts sur leur incroyable voyage dans l'au-delà. Un voyage particulièrement troublant. Contrairement à Nicole et Jean, Cathy n'est pas morte. Pourtant, elle aussi raconte strictement la même expérience de mort imminente. Son histoire remonte à 1978. À l'époque, elle a 30 ans et elle passe ses vacances dans le sud de la France.
Nous étions donc dans un camping.
L'entrée des sanitaires avait un perron de quelques marches, 3 ou 4 marches. En repartant, j'avais des semelles compensées aux pieds et en voulant sortir un peu trop rapidement, j'ai mon pied qui a glissé, mais très violemment. Et hop, je me retrouve assise par terre. Je suis là et je me dis, ça va faire très très mal. Et j'attends la douleur. Et à la place de la douleur, je sens quelque chose qui monte à une vitesse fulgurante depuis l'endroit de l'impact, donc mon coccyx, une sorte de truc en boule, et qui monte à une vitesse fulgurante, qui passe tout le long de ma colonne vertébrale et qui ressort vers le haut. Et en fait, à ce moment-là, c'est moi qui suis sortie également. Et je me retrouve dans un immense tunnel, gris foncé, où je vole à une vitesse vertigineuse.
Le tunnel, tous le décrivent comme la deuxième étape de l'EMI, juste après la décorporation.
Et arrivé en haut de ce tunnel, je me suis retrouvé devant un espace noir.
Je me rappelle, j'entendais des sons, j'avais des couleurs, je sentais des présences diaphanes près de moi.
Le tunnel était très large, donc je n'ai pas pu le toucher, mais il me semblait qu'il n'avait pas de matière.
Quand brusquement, au fond, j'ai vu une lueur, comme le soleil un jour d'hiver se lève. Et cette lueur a pénétré dans cet espace noir et elle s'est dirigée vers moi. Elle s'est condensée. Et cette lumière était d'une puissance bien plus forte qu'un arc électrique, bien plus forte qu'un flash de photographe. C'est une puissance inouïe. Et alors, première surprise, elle ne m'éblouissait pas.
La lumière, ce serait la troisième phase du passage vers l'au-delà.
La lumière a pris tout l'horizon. Et c'est le plus beau moment de ma vie. Le plus beau moment de ma vie. Parce que la lumière, ce n'est pas que la lumière, c'est un océan d'amour, mais un amour, on n'a même pas idée ici sur la Terre.
Et cette lumière également paraît vivante. Et nous sommes à l'unisson. Je suis dedans. Et je me sens transfusée par ce qu'elle est.
Cette lumière, elle était pour moi. Elle m'aimait. Et cet amour inconditionnel qui était autour de moi m'a fait vivre des instants fabuleux, merveilleux, exceptionnels. J'étais heureux, bien heureux. Je ne peux pas exprimer ça autrement.
C'est un amour qui restaure, qui comble. Moi, je revenais chez moi. J'étais dans ma patrie et j'ai su, mais alors d'une façon formelle, qu'il n'y a que la vie, que j'étais éternelle.
Un sentiment d'amour absolu et d'immortalité. Mais plus incroyable encore, ces expérienceurs vont ressentir un pouvoir hors du commun.
toute la connaissance est là, mais c'est pas une somme de savoir livresque, c'est pas ça. C'est d'un seul coup on est intelligent, mais aux dimensions de l'univers, on sait tout.
J'ai conçu des choses extraordinaires, à savoir que j'avais la connaissance totale. Je savais tout, je connaissais tout. Les mathématiques, la génétique, la géographie, je connaissais tout. Alors que Dieu sait que je ne connais que peu de choses.
Ces récits semblent à peine croyables. Et pourtant, un élément continue de troubler même les plus sceptiques. Les mêmes images de Amy reviennent toujours, quel que soit le pays, l'époque et surtout l'âge des expérienceurs. Car certains vivent ce phénomène très jeune. Le père François Brune est prêtre. Il est l'auteur de nombreux ouvrages concernant la théologie, la spiritualité et surtout la vie après la mort.
On a un certain nombre de témoignages d'enfants qui sont parmi les plus convaincants parce que les enfants n'ont pas pu entendre parler de ce genre d'expérience ou lire quoi que ce soit sur la question. Et puis les enfants... En général, ne mentent pas quand ils racontent ce qui leur est arrivé. Il y a quelques cas, mais pathologiques que l'on connaît. Mais la plupart du temps, ils sont sincères. On voit bien que ce qu'ils racontent, c'est qu'ils l'ont vécu.
Plus incroyable que le récit que font les enfants qui ont vécu une EMI, leur dessin.
Alors pour les enfants, on a le récit oral, bien entendu. Mais avec les enfants, le dessin joue souvent un très grand rôle. Les enfants aiment bien dessiner, ils font de beaux dessins pour maman, pour papa. Et là, on leur demande.
La seule différence avec des adultes, c'est que les enfants ne vivent pas ce que l'on appelle la revue de vie. Ce moment où notre vie défile. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous partons en Suisse, à Genève, rencontrer une spécialiste de la mort, Evelyne Elsheiser-Valarino. Une thanatologue qui, depuis près de 25 ans, consacre la majeure partie de son temps à l'étude des EMI et notamment à la revue de vie.
Ils revivent dans un temps extraordinairement rapide, où certains disent en dehors du temps, tous les éléments importants de leur vie. Donc c'est une expérience extraordinairement pédagogique et importante pour la suite de leur vie. Quand ils revivent une situation conflictuelle ou heureuse, ils sont non seulement eux-mêmes, ils comprennent leur point de vue, le point de vue des personnes qui étaient impliquées dans ce qui s'est passé, et en plus ils se voient comme des observateurs.
Alors quand vous donnez un coup de poing, n'y allez pas trop fort, parce que bientôt vous allez le ressentir vous aussi.
Nicole se souvient très bien de sa propre revue de vie. Un moment très heureux.
Je voyais ma joie quand j'ai eu ma première poupée tout de suite à la suite de la guerre et que je l'ai enlevée de son carton et que j'ai déchiré en la prenant, donc la robe. Je voyais la joie en revoyant tous les ans pendant les vacances mon petit chien qui était chez ma grand-mère. Mais plein de choses comme ça. Mais j'étais capable, et c'est ça qui est important, de me voir telle que j'étais. Comme si je regardais quelqu'un d'autre, quoi, avec la distance qu'il faut.
Les expériences de mort imminente semblent toujours heureuses. Pourtant, comme nous le découvrirons plus tard, certains vivent un vrai cauchemar au moment de mourir. Après la revue de vie, quelle est la suite du voyage dans l'au-delà? Pour le savoir, nous partons rencontrer une autre expérienceuse. Elle s'appelle Nicole. Elle vit dans la banlieue de Montpellier. Son EMI date de mai 2003. Nicole Canivanc vient de passer un entretien professionnel. Elle est heureuse car elle vient d'être embauchée. Nicole veut prévenir son mari, mais au moment de saisir son téléphone... Après avoir violemment percuté un arbre, Nicole tombe dans le coma.
Et là, je me suis retrouvée donc dans cet espace autre. C'est-à-dire que j'étais à l'envers, donc le ciel était en bas, l'herbe était en haut. J'ai vu que j'avais pas de corps, mais j'étais un peu surprise, mais sans plus. Voilà, je me suis vraiment réadaptée tout de suite. Et là, bon, bah, j'ai vu cette herbe de la prairie très vivante. Vraiment, pour moi, voilà, vivant, ça veut dire doté d'une conscience, d'une forme de conscience. Évidemment, c'est pas la même que nous. C'était comme si j'étais rentrée à la maison. J'étais rentrée dans ma patrie de lumière. Et donc, c'était un grand bonheur. C'était, voilà, la béatitude, peut-être.
Toujours aussi troublant. Là encore, les expérienceurs semblent tous avoir vécu la même chose. Tous racontent en effet le même paysage heureux et difficilement descriptible.
Pas d'être humain, pas de maison, pas de relief, rien. Vraiment, où suis-je? C'est un no man's land.
Je me suis assise près d'un arbrisseau, c'était de la lumière d'eau. Je regardais des fleurs. Il y avait d'autres couleurs, des couleurs pastel que je ne connais pas là. Puis en même temps, les sons devenaient couleurs et vice-versa. Je me suis rendu compte que je n'étais pas plus importante, moi, en tant qu'humain, qu'une note de musique, qu'une goutte d'eau sur une feuille, qu'une rose, qu'un parfum. Non, je faisais partie de la grande vie.
J'avais l'impression que là-bas, c'était vraiment la vraie vie, la vraie famille, la grande famille spirituelle, de lumière, et puis qu'ici, bon, c'était, oui, une autre réalité, mais en fait, éphémère aussi, ponctuelle, alors que l'autre côté, c'est plus la totalité, en fait.
Ces témoignages font curieusement penser à l'image que nous avons tous du paradis. Les expérienceurs seraient-ils simplement influencés par les clichés sur l'au-delà que nous avons tous en tête ? Pour les spécialistes, c'est l'inverse.
Je pense que toutes ces expériences de mort imminente, où on va se trouver dans une sorte de parc extraordinaire, merveilleux, c'est cela qui est à l'origine de notre théorie du paradis, n'est-ce pas ? Qu'on retrouve dans quantité de religions.
On pourrait dire, en fait, ces symboles ont été créés parce que des gens ont fait des NDE, ont vécu cette expérience, sont revenus avec ce témoignage-là. Et après, on s'est imaginé exactement la lumière, le tunnel, etc. Et ce sont devenus après des symboles religieux.
Les expériences de mort imminente ont toujours été rapportées depuis les textes les plus anciens qu'on peut trouver. Et justement, il y a des gens, des auteurs qui vont avancer que les expériences de mort imminente auraient façonné la religion et les symboles religieux, justement.
À en croire ceux qui ont vécu cet extraordinaire phénomène, au moment de mourir, nous revivons notre vie. Nous traversons un long tunnel qui nous conduit vers une lumière, puis un paysage merveilleux. Mais que se passe-t-il après? Et surtout, comment et pourquoi ces gens sont-ils revenus à la vie? Y a-t-il une vie après la mort? D'après les récits des expérienceurs, ceux qui affirment revenir de la mort, tout commencerait par la décorporation, ce moment où l'on flotte au-dessus de notre corps. Nous revivrions notre vie, puis nous naviguerions ensuite dans un tunnel vers une lumière bienveillante avant de pénétrer dans un monde merveilleux. Mais comment nos témoins sont-ils revenus à la vie? C'est à Toulouse que notre enquête se poursuit. Cathy Cavallero est infirmière. Elle a vécu une expérience de mort imminente en l'an 2000. Cette année-là, Cathy passe des vacances dans les Pyrénées-Orientales. Alors qu'elle se promène, la jeune femme est prise d'un malaise. Cathy comprend très vite qu'elle a tous les symptômes d'un accident vasculaire cérébral. Après quelques minutes, elle tombe dans le coma. Au moment où les secours arrivent, c'est déjà trop tard. Cathy est en train de vivre une expérience de mort imminente.
À un moment donné, j'ai vu, au bout d'une ligne blanche, il y avait un halo lumineux, il y avait des silhouettes humaines. Alors, c'était vraiment des silhouettes. Hein. Après, j'étais incapable de dire si c'était des hommes ou des femmes. Ça, c'était des silhouettes adultes, de personnes adultes qui m'attendaient, qui étaient là que pour moi. Ça, c'était une évidence. C'était des gens qui étaient dans un bonheur encore plus intense que celui dans lequel j'étais moi. Et ça m'attirait, en fait. Et tous ces gens me connaissaient, mais sur le bout des doigts, de A à Z.
Chacun des autres témoins affirme également avoir rencontré ces êtres.
Il y en a un qui semble s'approcher vers moi, comme si j'étais sa cible. Donc je le regarde s'approcher et au fur et à mesure, bien sûr, il grandit, je vois mieux à quoi il ressemble.
Moi, j'avais le sentiment que on se connaissait, on se retrouvait. Et c'était un accueil plus que chaleureux.
Et cet être-là m'a demandé « Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres ?» Deux petites phrases simples, hein, n'est-ce pas, hein. Mais je sais très bien que jusqu'à la fin de ma vie, je n'arriverai pas à épuiser le sens de ces deux petites phrases-là.
Nicole découvre alors qu'elle connaît l'un de ces êtres de lumière.
Mes parents avaient perdu un petit bébé de 7 mois, j'avais 11 ans, et il était là, un jeune homme. Plus tard, j'ai cherché quel âge il aurait pu avoir, 17-18 ans, comme je l'ai vu, irradiant de lumière.
De son côté, Cathy aussi reconnaît ces personnes qui l'attendent.
Il y a un groupe de personnes, et là, je suis stupéfaite, je suis sidérée. Et je ressens beaucoup d'émotions, encore maintenant. Parce que, à ce portail, il y a toute ma famille. Et ils ont l'air, mais en parfaite santé. Ils sont en pleine forme. Ils sont rajeunis. Ils sont beaux. C'était quelque chose de magnifique de les voir comme ça.
Pourtant, malgré le bien-être qu'ils ressentent, ces expérienceurs savent, à cet instant, qu'ils sont face à un choix crucial.
Et j'ai commencé à m'approcher d'eux. Et plus je m'approchais, et plus en même temps j'avais conscience que j'allais atteindre un point de non... que si j'entrais dans cette lumière, en fait, c'était le point de non-retour. Je reviendrai pas.
On m'a demandé aussi si je voulais rester de l'autre côté ou revenir. Je peux vous dire qu'on n'a pas envie de revenir.
J'entends une voix qui me dit, mais gentiment, on ne te veut pas. Je me dis, tiens donc, elle ne me veut pas. Et alors le terme exact, ce que je pense à ce moment-là, c'est, elle est gonflée, pourquoi elle ne me veut pas? Je vais y aller quand même. Et là, pour la deuxième fois, cette voix qui s'impose et qui me dit « On ne te veut pas, tu ne veux pas comprendre, tu t'obstines à avancer, je vais te montrer pourquoi on ne te veut pas. » Et là, je vois ma tombe. Il n'y a pas de doute, c'est la mienne. Elle est toute seule, au milieu du noir. Et devant ma tombe, il y a les deux enfants de mon amie qui sont... extrêmement malheureux, qui sont très tristes, qui pleurent toutes les larmes de leur corps.
Et au bout d'un certain temps, malheureusement, cette lumière s'est éloignée.
Et c'est là où, en fait, j'ai pris la décision, et je prends la décision, mais réellement, c'est vraiment une décision de faire machine arrière. C'est vraiment un choix, parce que la facilité, et je le mesure encore plus maintenant, la facilité, c'est de partir. Parce que c'est agréable, c'est confortable, c'est pas douloureux, c'est hyper rassurant. J'ai repris conscience de mon corps, je sentais le poids de tous les appareils, j'avais des trucs un peu partout dessus, j'étais perfusée, j'avais l'oxygène.
Je rentrais dans mon corps et c'est le monde à l'envers. C'était comme si mon corps c'était un cercueil.
Mais une question se pose alors. Les expérienceurs ont-ils réellement fait le choix de revenir? Pour certains médecins, il y a une autre raison, bien plus rationnelle.
Ils sont surtout revenus parce que des réanimateurs aussi les avaient réanimés. Peut-être qu'il est sûr que sans massage cardiaque, sans défibrillateur, sans adrénaline, eh ben, un cœur qui est arrêté, il ne repart pas tout seul.
Assez souvent, je connais des cardiologues qui se sont fait engueuler. Par une personne, ils étaient tout contents. Oh, je vous ai ramené à la vie, je vous ai sauvé la vie, tout ça. Mais ça va pas, non, j'étais tellement bien. Ça, j'ai entendu ça, je sais combien de fois.
Le fait d'avoir de plus en plus de défibrillateurs fait qu'il y aura de plus en plus d'expérienceurs.
En se perfectionnant, la médecine sauve toujours plus de vies et ramène plus de gens de la mort. Mais finalement, à quel moment peut-on considérer qu'on est réellement mort ?
Le moment vraiment où on bascule dans la mort, il reste complètement indéfini. Il y a une espèce de seuil qui est indéfinissable, une sorte de point irréversible, mais on ne sait pas exactement où il se situe.
Les gens ont frôlé la mort, n'en déplaise à certains, ils ne sont pas morts. La mort est un phénomène irréversible.
Autrefois, c'était simplement une personne qui ne respirait plus, on disait qu'elle était morte. Qu'elle ne bougeait plus, elle ne respirait plus, elle était morte.
Les premiers symptômes d'il y a quelques siècles ont donné finalement naissance au terme de croque-mort, puisque des gens étaient destinés à tester avant l'enterrement la réalité de cet état en croquant l'orteil du mort, entre guillemets. Pas de réaction, c'est qu'il était mort.
Ensuite, ça a été l'arrêt cardiaque. Quelqu'un qui avait le cœur qui s'arrêtait, il était mort.
Et en fait, ça évolue au gré de nos progrès médicaux et scientifiques. Hein. Et donc, quand on a inventé le respirateur artificiel, on ne pouvait plus seulement parler de la mort lors de la cessation des activités du cœur et de la respiration, parce que là, on avait une machine qui respirait pour le patient. Donc, on a dû évoluer vers d'autres critères.
On a défini ce qu'on appelle la mort cérébrale. C'est la mort sur des critères neurologiques.
Si le cerveau est mort, on est mort.
Qu'ils soient revenus grâce à leur propre volonté ou grâce à la médecine, les expérienceurs vont vite comprendre que leur retour à la vie n'a rien de simple. L'expérience de mort imminente n'a rien d'un miracle. Au contraire, au moment de revenir à la vie, le plus dur ne fait souvent que commencer pour les expérienceurs.
Est-ce qu'on va te croire ? Est-ce qu'on ne va pas te prendre pour une allumée ? Parce que quand même, c'est assez bizarre.
J'ai essayé de le partager avec quelqu'un qui était toujours proche de moi, ma mère, qui était à côté de moi. Et donc, j'ai engagé la conversation avec maman et je lui ai dit, écoute-moi, j'ai vécu quelque chose d'assez extraordinaire. Je suis passé dans un tunnel. Ma mère m'a arrêté instantanément en me disant, mon Dieu, merci la Sainte Vierge, vous m'avez exaucé, merci, merci. Et elle a foncé à Lourdes, elle m'a mis une plaque. C'est là où je dis que si elle avait su le reste de l'histoire, elle m'aurait construit une cathédrale.
Peu à peu, le fossé va se creuser entre ceux qui disent revenir de la mort et leur entourage.
Mon frère, qui est très terre à terre, me regarde avec les grands yeux et me dit « Je ne sais pas si tu as bu ou si tu as fumé la moquette ou s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas, mais là... Il me dit quand même, c'est un peu bizarre ton truc, et il me dit, il faut que t'arrêtes.
Cette incompréhension, moi j'ai gardé ça plutôt en moi. L'expérience de mort imminente, c'était quelque chose qui était comme à l'intérieur de moi, et ça a pris du temps pour que je puisse effectivement la remettre en mots avec d'autres personnes. Ça a pris plusieurs années en fait.
Et mon mari, je lui en ai parlé. Bien sûr, au départ, il m'a dit, tu crois pas que c'est un rêve, tu crois pas ceci, cela, mais je sais qu'il n'a jamais douté de moi.
Michel se souvient pourtant de sa surprise en écoutant pour la première fois le récit de Nicole.
Sur le coup, j'étais un petit peu sceptique, hein, étonné. Hein. Je lui m'appelle lui avoir dit, mais tu as rêvé. Ah non, c'était trop réel.
Et la réaction de ma mère a été telle que je me suis tue. Je me suis tue pendant 40 ans.
Cette méfiance n'est pas nouvelle. Bien au contraire. De tout temps, ces patients au discours surnaturel ont dû affronter l'incrédulité de leur entourage. Diagnostiqués comme atteints de troubles mentaux par le passé, certains expérienceurs ont même été internés en hôpital psychiatrique.
Ça m'est arrivé de lui dire, bon, attention, à qui tu dis ces choses-là, parce que tu vas passer, tu risques l'asile. Effectivement, il y a des personnes qui ont fait des expériences comme ça et qui ont été en asile psychiatrique. Hein.
Dans les premiers temps, s'ils insistaient trop, ils se trouvaient très vite entourés de blouses blanches et on leur faisait un certain nombre d'injections, pas jusqu'à ce qu'ils cessent de raconter toutes ces bêtises, ben, qui redeviennent normaux, entre guillemets.
Et moi, c'est ce que j'ai vu de prime abord. Si j'en parle, je vais aller voir le psychiatre et je vais être internée. Donc, ça me faisait très peur.
C'est rare que ça puisse être accueilli, là aussi, avec de l'ouverture et de la sérénité. C'est souvent en face, comme c'est dans la famille, en face, elles vont rencontrer de la peur. Et quand c'est dans le milieu médical, elles vont rencontrer de la dénégation et voire de l'inquiétude.
Incapables d'expliquer ce qu'ils ont vécu, les expérienceurs s'enferment peu à peu dans leur solitude. Ils ont souvent du mal à retrouver un sens à leur vie.
Ils passent des fois par un moment de dépression, de désorientation, de remise en question. C'est vraiment un moment très difficile parce qu'ils vivent une vie qui n'est plus la leur, qui n'est plus en accord avec les nouvelles valeurs qu'ils ont. Et là, et c'est ça qui est difficile, il faut qu'ils trouvent un moyen d'emprunter un nouveau chemin pour être en harmonie avec ce qu'ils ont vécu.
Plus compliqué encore. Ceux qui reviennent de la mort n'ont plus du tout les mêmes préoccupations.
Les êtres qui ont vécu ça reviennent complètement transformés, complètement bouleversés.
Ils vont complètement se détacher des valeurs matérielles de ce monde, la plupart du temps. Ils vont comprendre que ce qui compte le plus sur cette planète, ce n'est pas la superficie de sa maison, la reconnaissance sociale, le nombre de ses voitures.
S'agit-il de simples troubles psychiatriques ou d'une réelle expérience fantastique ? Certains éléments ne peuvent que semer le doute. Jean Morzel, le militaire qui a reçu une balle perdue, se souvient encore de la conversation qu'il a eue avec son médecin quelques jours après son opération.
Alors je lui dis, au fait, docteur, quand même, vous avez mal fait votre travail. Parce que... Et pourquoi il m'a dit ? Parce que je me rappelle, à un moment donné, vous aviez mon foie sur votre main droite, vous l'avez passé sur votre main gauche et vous l'avez entaillé. Ah oui, oui, exact, c'est vrai, on te l'a dit. Et non, je l'ai vu. Il m'a dit, comment tu l'as vu ? Et on te l'a raconté. Et j'ai dit, non, je l'ai vu. J'étais au-dessus, là, près de la lampe, vous savez, que vous aviez au-dessus. Lampe qui est dégueulasse, d'ailleurs, je l'ai dit. Il y a plein de poussière. Et... Ah bon ? Alors, il restait quoi ?
Plus incroyable encore, lors de son expérience, Nicole, cette jeune femme qui a connu la mort après des complications médicales, aurait eu des visions prémonitoires.
Ce qui a beaucoup interrogé aussi mon mari, c'est que je lui avais dit, quand je lui en ai parlé, je lui avais dit ce qui m'avait été montré qui pourrait arriver, c'est-à-dire que je voyais que mes beaux-parents et ma grand-mère, qui avait à peu près le même âge à 3 ans près, on me montrait que quand ils partiraient, tous les trois, ça serait dans un laps de temps rapproché, dont 2 à 3 semaines d'intervalle.
Il faudra attendre de longues années avant que le mari de Nicole ne vérifie ses prédictions.
Effectivement, 13 ans après, mon père est décédé. C'était un mardi 27 janvier 81. Il est décédé. 3 semaines après, un mardi, sa grand-mère, qui n'était pas malade, pas particulièrement malade, avait été hospitalisée. Est décédé, et la fin d'année suivante, c'était maman.
Peut-on croire les expérienceurs lorsqu'ils évoquent leurs visions et leurs prémonitions ? Depuis plusieurs dizaines d'années, des scientifiques ont décidé de s'emparer de la question. Nous sommes à la fin des années 70, et une poignée de scientifiques intéressés par les EMI décident de créer une association qu'ils baptisent YANTS. Près de 30 ans après, ils sont une centaine à recueillir et partager les récits des expérienceurs, mais aussi les découvertes des chercheurs. En France, c'est à Oraison, dans le sud, que se trouve le siège de l'association. Le docteur Jean-Pierre Jourdan, directeur de recherche médicale, y reçoit régulièrement, depuis 25 ans, des expérienceurs.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Aujourd'hui, il a rendez-vous avec François. Lui aussi a vécu cet extraordinaire voyage. En 2012, François se fait griffer par un chat. On lui prescrit alors de la pénicilline. Seul problème, il ne sait pas qu'il est allergique. En quelques minutes, il est victime d'une très violente réaction physique. Et très vite, il tombe dans le coma, malgré les efforts des secours. François va lui aussi vivre la décorporation, la lumière et ce paysage idyllique. À son retour, c'est l'incompréhension la plus totale.
Au début, quand je repensais à cette expérience, je pleurais. Je pleurais parce que je me mettais dans un coin et je pleurais. Et souvent, il m'arrive d'y penser, quoi. Très, très souvent, il m'arrive de penser à cette expérience. Et très, très souvent, j'ai envie de quitter cette vie. Mais c'est pas un suicide, c'est pas... Je vais pas me suicider parce que j'ai envie de me suicider ou parce que... Non, j'ai envie de retrouver cet autre monde, quoi. Bien évidemment, je suis pas sot. Il faut...
Pour vous, cet autre monde, il est plus fondamental que notre vie ici et maintenant?
Ah, il est plus que fondamental. Il est là ici c'est le chaos. Je suis là aujourd'hui. Je suis un peu un bâtard entre guillemets. J'ai connu quelque chose d'extraordinaire. Et puis ici, moi, ça rapporte pas.
J'ai l'impression qu'il manque quelque chose.
Ah, il manque fatalement quelque chose, bien sûr, oui. Mais j'ai pas du tout l'impression. Moi, ce monde, j'ai mes deux mots. Bon, j'ai mon épouse, mais bon, à part, c'est tout, quoi. C'est pas. Bon, il y a des jolis coins, mais de toute façon, des jolis coins, j'en connais aussi. J'en connais dans l'autre monde.
Mais c'est le gros problème de beaucoup de gens, hein, justement, ouais. C'est de vivre avec. Hein. C'est la question qu'on me pose en général, c'est comment je vis avec ça, hein. Effectivement, qu'est-ce que j'en fais? C'est pas simple. Une grande majorité de personnes qui l'ont vécu ont changé. On ne sait pas pourquoi. Et c'est un argument quand même en faveur de l'authenticité, entre guillemets, de l'expérience, parce qu'une hallucination, on ne connaît aucune hallucination, aucune drogue qui puisse changer une personnalité, une façon de voir, des conceptions, comme le fait cette expérience.
Phénomène surnaturel ou hallucination? Pour tenter de percer le secret des expériences de mort imminente, nous poursuivons notre enquête en plein centre-ville de Genève, à l'Institut suisse des sciences noétiques. Car en Europe aussi, on a décidé de réagir. Il y a une quinzaine d'années, des scientifiques ont créé ISNOE, une association qui organise des groupes de parole pour les patients expérienceurs. Ici, chacun peut raconter son histoire librement. Une petite révolution. Pour Sylvie Détiolaz, docteur en biologie moléculaire qui dirige le centre ISNOE avec le psychothérapeute Claude-Charles Fourier, prendre contact avec d'autres personnes qui ont vécu une expérience similaire permet de sortir de sa solitude.
Les personnes qui s'adressent à nous, ce sont des personnes qui sont très perturbées par ce qu'elles ont vécu, qui ont de la peine à intégrer cette expérience dans leur vie et à continuer leur vie avec les bouleversements que ça induit au niveau de leurs valeurs personnelles et dans leurs relations et dans leur vision du monde.
Filmer ce genre d'événement est très rare. Ici, la méfiance est au rendez-vous. Tous affirment être revenus de la mort et ont peur de ne pas être pris au sérieux. Et justement, aujourd'hui, une patiente souhaite raconter son histoire.
Et nous avons eu donc un très grave accident de voiture.
C'est la première fois qu'elle se livre en public.
C'est un camion qui n'a pas fait son tour.
Il y a plus d'une vingtaine d'années, alors qu'elle allait fêter son anniversaire avec une amie, cette femme a vécu un événement terrible. Déclarée morte, elle aussi raconte tous les symptômes d'une EMI. Tunnel, lumière, rencontre et retour dans son corps. Un retour d'une violence extrême.
Je me suis fait happer, alors là, ça je m'en souviendrai toute ma vie, ce truc-là, dans mon corps, et j'ai eu l'impression, mais j'étais surprise déjà parce que j'ai pas compris ce qui m'arrivait, j'ai eu l'impression qu'on me mettait un scaphandre en fait.
Une fois revenue dans son corps blessé, cette femme affirme s'être rétablie de manière très inhabituelle.
qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai guéri très rapidement de mes blessures et je n'ai jamais souffert. J'ai eu les différents services qui défilaient dans ma chambre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai guéri d'un coup. Donc ça a fait la une de l'hôpital, on va dire. Et les gens qui rentraient de vacances ou autres voulaient voir le cas et voulaient voir si c'était vrai que ça pouvait exister.
Les miracles, le monde médical a du mal à y croire. Les scientifiques ne voient souvent dans les EMI que des réactions normales de notre cerveau. Alors, l'impression de revenir de l'au-delà ne serait-elle en fait qu'une hallucination ? Quels sont les dispositifs mis en place par les scientifiques pour démêler le vrai du faux ? Pourquoi certains cas restent-ils inexpliqués, même par les plus grands spécialistes ? Pour les scientifiques les plus sceptiques, l'intégralité des phases décrites par les expérienceurs n'aurait rien de surnaturel. Elles seraient tout simplement provoquées par leur cerveau.
Il y a eu des hypothèses qui ont été avancées, donc que le manque d'oxygène, donc cette diminution de l'afflux sanguin au cerveau, pourrait reproduire certaines des composantes.
Il est certain que lorsqu'un cerveau va manquer d'irrigation, il est facile d'imaginer qu'il va y avoir une perturbation de l'acquisition de la mémoire, par exemple.
L'impression de naviguer dans un tunnel aurait aussi pour origine une simple explication cérébrale.
Le tunnel aura une physiologie, aura un endroit dans le cerveau, donc au niveau des aires visuelles, il y aurait cette hyperactivité qui produirait cette intense lumière et donc la perte de vision périphérique qui produit une espèce de vision en tunnel avec l'obscurité sur les côtés.
On peut aussi dire, ben voilà, l'effet de lumière est lié au manque d'irrigation des zones postérieures du cortex.
Mais ce n'est pas tout. Même le sentiment de plénitude et d'amour pourrait trouver une explication scientifique. Il serait dû à des hormones, là encore sécrétées par le cerveau, dans des situations précises.
Beaucoup vous disent avoir perçu un bien-être immense, s'être senti parfaitement bien. Alors, ce qu'on a rapproché de la sécrétion d'endorphines. Si vous êtes bourré d'endorphines, vous allez être bien, puis ça va s'estomper petit à petit.
Il y a des Allemands dans les années 90 qui étudiaient le phénomène de la syncope chez des sujets sains et se sont rendus compte que quand les gens revenaient de leur perte de conscience transitoire, ils disaient « je me suis sentie extrêmement bien, j'ai vu des scènes de mon passé, je me suis vue au-dessus de mon corps ».
Quand on rêve, on peut aussi traverser des murs, on peut parfois avoir des visions du futur, rencontrer d'autres personnes, parfois décédées.
Les expériences de mort imminente n'auraient donc rien de surnaturel.
Tout ça fait qu'on dit, ben voilà, ce sont des hallucinations qui peuvent aussi être provoquées par les drogues que l'on va être amené à utiliser en anesthésie ou en réanimation. On connaît les effets psychédéliques de la kétamine, par exemple, qui s'approche du LSD.
L'impression de revenir de la mort pourrait entièrement être provoquée par notre cerveau. Pourtant, un cas d'expérience de mort imminente vient contredire l'ensemble de ces affirmations. Le cas d'une jeune femme devenue très célèbre, car elle a réussi à semer le doute aussi bien chez les expérienceurs que chez les scientifiques. Qui est cette patiente ? En quoi son histoire est-elle troublante ? Et comment les plus grands spécialistes mènent-ils l'enquête pour déterminer si ces phénomènes sont scientifiques ou surnaturels ? D'après les récits des expérienceurs, ceux qui reviennent de la mort, au moment de mourir, nous flotterions au-dessus de notre corps, avant de voir notre vie défiler, de naviguer dans un tunnel vers une lumière bienveillante qui nous mène vers un monde merveilleux. Mais pour certains scientifiques, l'ensemble de ces impressions serait entièrement provoqué par notre cerveau. Alors, qui croire ? D'autant qu'il existe un cas de mort imminente qui sème le doute même chez les plus grands spécialistes. Et tout a démarré ici, aux États-Unis.
Il y a un cas époustouflant qui va venir bouleverser toutes les donnes. C'est celui de cette jeune femme qui s'appelle Pamela Reynolds, qui doit être opérée d'un anévrisme du tronc cérébral, c'est-à-dire c'est une poche de sang qui est prête à exploser à tout moment et qu'il faut enlever au niveau du cerveau. Pour faire cette opération, on est obligé d'arrêter la circulation cérébrale pendant plusieurs minutes. Pour faire ça, on est obligé de refroidir le cerveau de Pamela Reynolds à 15,5 degrés. À cette température, il n'y a aucune possibilité d'avoir le moindre échange biochimique entre deux neurones. C'est prouvé.
Durant plus de 6 heures, Pamela Reynolds est placée dans un état de mort clinique passager, aussi inconsciente qu'il est possible de l'être. Grâce au refroidissement provoqué par les médecins, son cerveau a tout bonnement été désactivé, provisoirement.
Il est bien certain que lorsque l'on réfrigère les cellules, on arrive à diminuer leur métabolisme et à l'arrêter. Et quand on va les réchauffer, les choses vont repartir.
Pourtant, après l'opération, Pamela Reynolds a vécu l'inexplicable.
À son réveil, Pamela Reynolds va décrire quasiment point par point toutes les phases de son intervention chirurgicale.
Pamela Reynolds décrit les instruments qui ont été utilisés, la conversation qui a eu lieu entre le cardiologue qui avait voulu assister à l'intervention et le chirurgien.
Pamela Reynolds, comme beaucoup de ses patients en expérience de mort imminente, nous raconte tout d'abord qu'elle se sentait bien, qu'il n'y avait plus de douleur, qu'elle a entendu des voix, qu'elle a entendu la chirurgie, la CIM, hein, parce qu'il y avait des interventions, de la choix de la veine, des problèmes qu'ils ont rencontrés, etc.
Dans ce cas de Pamela Reynolds, tout a été colligé sur un cahier de bloc, tout a pu être contrôlé. Il n'y a aucune contestation possible, il y a eu des témoins, et toutes les personnes ont bien raconté la même chose. Le cardiologue qui était là et qui avait eu cette conversation avait bien dit ça au moment où le cerveau ne fonctionnait plus.
En état de mort cérébrale, Pamela Reynolds a donc bel et bien vécu un phénomène de décorporation. Et ça, personne ne peut expliquer pourquoi.
Je pense que l'intérêt du cas est là, d'avoir un cerveau qui est extrêmement limité dans son activité et que cependant, Pamela nous raconte une phénoménologie, un vécu subjectif extrêmement riche. Comment l'expliquer? Je pense que ça, c'est un des défis.
C'est sûrement, historiquement, l'expérience en milieu médical, la première expérience qui a vraiment commencé à interpeller les scientifiques.
Pour certains détracteurs, ce témoignage n'est pas crédible. La jeune femme aurait très bien pu voir les instruments avant de se faire opérer.
Impossible, elle ne pouvait pas les voir avant puisqu'on avait déjà endormi. Et puis pour des raisons d'asepsie, c'est-à-dire pour limiter le temps de contamination aux bactéries, on sort les instruments chirurgicaux au dernier moment. Et au moment où on les avait sortis, il y avait belle lurette que Pamela Reynolds dormait et était même refroidie. Donc. Et puis le réveil, certains ont dit, si elle ne les a pas vus pendant l'intervention, elle les a peut-être vus au réveil. Au réveil, on ne l'a pas réveillée dans le bloc opératoire, on l'a réveillée en réanimation, parce qu'il a fallu d'abord la réchauffer avant de la réveiller. Donc elle n'avait pas pu voir ses instruments autrement que pendant sa période d'anesthésie.
À ce jour, aucun scientifique n'a pu expliquer le cas de Pamela Reynolds. Pourtant, les chercheurs ne s'avouent pas vaincus. Pour déterminer si les expériences de mort imminente relèvent d'un phénomène médical ou paranormal, nous partons à l'université de Liège, en Belgique, au département du cyclotron. Ici, on étudie le fonctionnement du cerveau. Vanessa Charland de Verville est neuropsychologue et reçoit régulièrement des expérienceurs pour leur faire raconter leur histoire. Elle essaye de mieux comprendre l'implication du cerveau dans une expérience de mort imminente. Aujourd'hui, la spécialiste reçoit Sophie, une quadragénaire qui affirme être revenue de la mort.
Ce qui s'est passé, j'avais 17 ans à cette époque-là et je devais me faire opérer pour la énième fois. Mm-hmm. Je suis arrivée à la salle d'opération et puis à un moment donné, ce qui a été bizarre, c'est que j'ai vu toute mon opération. Mais j'étais plus dans mon corps, j'étais au-dessus. Je me voyais, je me voyais au-dessus, je voyais ce que les médecins étaient en train de faire et tout. Et à un moment donné, je me souviens que le médecin a dit « on a un problème, on la perd ». Et moi, je criais, je disais non, 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 je suis là, je suis là. Mais on ne m'entendait pas. Et c'est là que je me rendais compte que, voilà, moi, je voyais tout, j'entendais tout, mais les autres ne me voyaient pas.
Sophie finit par réincorporer son corps. À son réveil, elle essaye de se confier.
Et en fait, j'ai expliqué ça au médecin aussi, au chirurgien. Bon, est-ce qu'ils m'ont cru ou pas, j'en sais rien, parce que je vous parle de ça il y a... Ouf, j'avais 17 ans, donc il y a plus de 20 ans que ça s'est passé, donc...
Après l'entretien, la neurologue emmène Sophie faire un scanner de son cerveau. Mais rechercher d'éventuelles séquelles s'avère particulièrement compliqué.
On croit que toutes les composantes d'une expérience de mort imminente peuvent avoir une explication donc neurologique, peuvent avoir un corrélat cérébral et d'essayer de voir à ce moment-là dans leur cerveau qu'est-ce qui se passe. Bien entendu, on ne peut pas être là quand ça se produit. Et donc, on essaie de voir si justement, donc, il n'y aurait pas laissé une cicatrice suite à cela.
Aujourd'hui, rien à signaler sur le scanner. Alors, puisqu'explorer le cerveau ne donne rien, certains médecins tentent une autre méthode. L'un d'eux en particulier s'y attelle avec acharnement. Cet interne au CHU de Reims s'appelle François Lallier. Faute de réelles recherches sur les EMI en milieu hospitalier, ce jeune étudiant en médecine n'hésite pas à mener sa propre enquête parmi les dossiers de patients tombés dans le coma. Et tout ça dans le cadre de son mémoire.
Quand je rentre chez moi, je prends mon téléphone et j'essaye d'appeler des personnes pour voir si elles se souviennent de quelque chose ou pas de leur arrêt cardiaque pour éventuellement trouver des expériences de mort imminente.
Les armes de François, une liste de noms et son téléphone portable.
Je crois que des fois, j'appelle 10 patients d'affilée pour qu'il y en ait au moins un qui réponde. Hein. C'est pas facile, pas évident. Allô ?
Bonjour, vous êtes sur la messagerie.
J'ai ressorti, donc c'est-à-dire analysé à ce jour 223 dossiers, j'ai réussi à interroger environ 70 personnes. Et parmi ces 70 personnes, j'ai 12 cas.
Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Allô ?
Oui, bonjour, excusez-moi, vous dérangez ? Je suis François Lallier, je suis interne au CHU de Reims. En fait, je voulais savoir si vous vous souveniez de quelque chose de votre période d'arrêt cardiaque. Pas du tout.
Non, le trou.
Après plus d'une dizaine d'appels, la patience du jeune interne finit par payer.
Est-ce que par hasard, vous avez la sensation d'avoir fait, ou le souvenir d'avoir fait des rêves un petit peu particuliers, des rêves que vous n'arriveriez pas à expliquer, ou des choses un peu bizarres
hein? Ah ben, je pense que quand j'étais dans le coma, des rêves, je me retrouve dans une espèce de pirogue, vous voyez, dans un endroit assez, on va dire la jungle, quelque chose comme ça, mais un endroit où on irait pas en vacances, entre guillemets.
Mm-hmm.
Où là, dans une espèce de pirogue, on passe en dessous d'un pont, et au fur et à mesure que j'avance, il y a plusieurs ponts, et je me retrouve à la fin, le dernier dans cette fameuse barque, l'espèce de pirogue. Mm-hmm. À ce moment-là, on se décolle pour que je me retrouve donc sur l'espèce de pont.
Mm-hmm.
Et là, on commence à m'arracher les dents.
À première vue, ce récit relève du cauchemar. Mais heureusement, il va évoluer.
On a l'impression d'être le roi du monde. Une sensation de bien-être absolu.
Ouais.
Sans avoir de décor spécial, hein, on est en haut d'une colline, il y a quelques arbres. On domine l'horizon, on va dire... on est légèrement surélevé, comme si on était sur une colline.
Mmh.
Un vent tout frais, il fait super beau.
Bah écoutez, merci beaucoup. Et puis, je vous laisse alors.
Pour notre interne en médecine, ce témoignage est précieux. Il permet d'éclairer un autre champ des EMI.
Moi, à mon sens, il faudrait intégrer cette question-là dans chaque interrogatoire médical pour tout simplement pouvoir en parler un petit peu aux patients après. C'est comme n'importe quelle donnée médicale, il faut la recueillir pour pouvoir l'étudier.
Ce témoignage que vient de recueillir le jeune interne a de quoi laisser perplexe. Avant d'atteindre la sensation d'amour absolu, l'expérienceur est passé par une phase de douleur et de solitude. Cela ne correspond pas à ce qu'on entend habituellement. Il faut dire que dans certains cas d'expérience de mort imminente, le paradis semble devenir l'enfer. Une expérience négative, c'est ce qu'a vécu Jean-Paul le 3 juillet 2010. Ce jour-là, il prépare un barbecue avec sa femme et son beau-fils. Lorsque tout à coup, il ressent une violente douleur. Son cœur vient de s'arrêter. Les secours n'arriveront que plusieurs dizaines de minutes plus tard. Malgré les soins, Jean-Paul est déclaré cliniquement mort.
J'étais allongé et je me suis retrouvé assis, comme ça, à regarder, dis-je. À regarder ce qui se passait, quoi, en étant spectateur de ma propre scène. Et d'un seul coup, ce qui s'est passé, c'est que il y a cette lumière qui est arrivée et mon être, en fait, montait attiré par cette lumière comme un aimant. Et donc, mon être est monté.
C'est à partir de ce moment que son expérience va tourner au cauchemar.
J'imagine une conception architecturale. En fait, je suis au rez-de-chaussée d'une maison. Je tombe, mon corps s'écroule. Voilà, je tombe, mon corps s'écroule au rez-de-chaussée. D'un seul coup, on vient me chercher, cette lumière vient me chercher et elle me monte au deuxième étage. Il y avait une espèce d'énergie qui est arrivée, qui s'est jetée sur mon corps, qui m'a fait un choc, qui m'a fait quelque chose de très très puissant, de très chaud, qui est venu sur mon corps, comme une espèce de chaud, comme une chaleur, si on me trempait, pour dire, dans la lave, on trempait mon corps dans la lave, et je me retrouve au premier étage. Et le premier étage, c'est là qu'on appelle l'enfer. Le problème de l'enfer, c'est d'être très simple, c'est on communique pas, on n'entend pas, on vous entend pas, on vous donne pas d'amour, on vous donne pas de chaleur, on vous entend pas, on ne pouvait pas vous exprimer. Voilà ce que c'est que l'enfer. Et ça, c'est quelque chose que vous allez vivre longtemps. Donc là, je suis dans un espace-temps complètement différent. C'est-à-dire que mon être part à une vitesse de la lumière à 300 000 mètres secondes, si on veut, qui se trouve tout autre, qui est conditionné par une haie, parce que la maison est tout entourée d'une haie, d'accord ? Et donc, je vois la lumière, là. Et je suis bloqué dans cette haie, et qu'est-ce que cherche mon corps ?
Jean-Paul aurait rencontré à cet instant son frère et son père, tous deux décédés il y a plusieurs années.
Et je les ai retrouvés tous les deux, comme je vois, et eux-mêmes ont dit « Non, t'as rien à faire là, toi. Toi, t'as rien à faire ici. Alors tu retournes dans ton corps. » Et c'est là que je suis retourné dans mon corps.
Il respire !
Les récits de personnes revenues de la mort ont permis de dénombrer plusieurs types d'expériences obscures. On les appelle EMI infernales ou encore NDE négatives.
Ça peut être ce qu'on appelle les NDE de type infernal, où là, on est vraiment à l'opposé de l'expérience positive, dans quelque chose qui correspond assez bien à notre vision classique de l'enfer, où la personne va descendre dans un endroit sombre, où il y a des milliers de gens qui croupissent, qui ont chaud, qui hurlent, qui ont mal. Il y a des flammes, il y a des entités démoniaques, donc vraiment quelque chose d'assez cliché, on va dire. Ensuite, il y a les expériences dénuées de sens, où là, la personne se retrouve dans une sorte de vide, de néant, où elle est complètement seule et elle a l'impression que ça va être comme ça pour l'éternité. Ce qui déclenche une terreur énorme. Et puis parfois, il y a des formes qui apparaissent. C'est toujours des formes géométriques, dont se dégage une sorte de sentiment d'ironie, un petit peu comme si elle se moquait de l'expérienceur, parce que celui-ci n'a pas encore compris que finalement rien n'a de sens, parce que rien n'a réellement existé. Que ce soit sa vie, sa famille, ses amis, l'univers, tout ça, rien n'a existé, n'était qu'une illusion. Et puis le troisième cas de figure, c'est les NDE inversés, où là, on a les composantes, enfin, les éléments de l'expérience positive, mais elle s'est ressentie négativement par l'expérienceur. Donc, par exemple, la personne va voir une lumière qu'elle va décrire un peu de la même façon, très brillante, très puissante, mais plutôt qu'aller vers elle, elle va avoir l'impression que la lumière vient vers elle et qu'elle elle va comme prendre possession d'elle, quoi, qu'elle va se perdre dans cette lumière.
Dans le cas des EMI négatives, le retour à la vie devient souvent presque insupportable pour ceux qui l'ont expérimenté.
Nous avons très peu d'expériences négatives dans les récits, car les gens ont peur d'en parler. C'est un peu comme si, pour les autres, c'est bien, et puis eux, c'est mal. Donc, qu'est-ce que j'ai, pourquoi ? C'est très, très dur à vivre au niveau du regard des autres et au niveau du propre vécu, parce que là, il y a plusieurs façons de le vivre, et ça peut être très, très traumatisant.
C'est des gens vraiment qui sont dans un état de stress permanent, parce qu'il y a toujours cette idée qu'un jour, il va falloir repasser par là. Et si la mort, c'est ça, c'est un enfer, en fait.
Ces expériences négatives ne représenteraient qu'une minorité des cas répertoriés. Mais elles ajoutent un peu plus de trouble à la complexité du phénomène et au mal-être de ceux qui l'ont vécu. Alors, pour se réadapter, certains expérienceurs n'hésitent pas à se battre à leur manière.
Je me suis dit qu'il fallait en parler. Il fallait que j'en parle. Et que si ça m'était arrivé à moi, c'est que c'était pas pour rien que ça m'était arrivé à moi. C'est qu'il fallait que je fasse des conférences, il fallait que je parle.
Des conférences, Nicole Canivanc en organise régulièrement. Nous retrouvons à Paris cette expérienceuse victime d'un accident de la route. Aujourd'hui, elle raconte son histoire à un public fasciné.
Vivre une telle expérience, ça peut paraître comme le rêve, peut-être pour certains de vous dans la salle. Oui, c'est comme un rêve, mais en même temps, c'est bouleversant. Parce que quand on revient, on est vraiment frappé par le manque d'amour sur cette terre. Et du coup, c'est quand même très compliqué et très douloureux.
Ces gens-là, c'est important qu'ils entendent ce qu'on peut dire, parce que du coup, ça va les rassurer. C'est déjà une libération d'être rassuré par rapport à une éventuelle folie. Et puis du coup, ensuite, parfois, il y en a qui viennent me voir à la fin. Et ils me disent « Ah oui, ce que vous avez dit, c'est ça, c'est ce que je ressens, merci. » Parce que pour eux, ils n'ont peut-être pas assez mouliné leur expérience encore dans leur intérieur. Alors, ils ne savent pas la mettre en mots et puis dire après « Mais qu'est-ce que ça change pour moi ?»
Comme souvent lors de ces conférences, Nicole comprend vite que ses spectateurs ne sont pas tous de simples curieux.
On est vraiment frappés. Et juste à titre de petit test, j'aimerais bien que si les personnes veulent bien, lèvent la main toutes les personnes qui ont vécu soit des expériences de mort imminente, soit des sorties de corps ou des phénomènes dits mystiques.
Autant de mains levées qui tendraient à attester de l'importance du phénomène.
L'idée, c'était faire des conférences pour parler de ça, pour que les gens sachent que ça existe, que ce n'est pas des maladies mentales, mais que voilà, c'est compliqué, évidemment, peut-être un peu de revivre après, mais que ça peut être aussi un beau cadeau si on arrive à l'intégrer. Et aussi, donc, permettre à tous les expérienceurs qui voulaient de venir pour qu'on les écoute et simplement qu'ils parlent.
Plus incroyable encore, parfois le milieu médical tire profit des expériences de mort imminente, et ce, de manière très inattendue. Nous partons dans le sud de la France, à Marseille. Il y a quelques années, l'hôpital de la Timone a mis en place le premier protocole sur l'intérêt des récits d'expérienceurs. Objectif : soutenir psychologiquement des personnes âgées ou des malades en phase terminale. Autrement dit, leur raconter ce qui les attend, peut-être, pourrait les soulager. Au sein de l'unité des soins et de recherche sur l'esprit, le docteur Éric Dudoit, psychologue clinicien, les accompagne quotidiennement.
Ici, on se sert de cette histoire des NDE, des EMI, pour accompagner les patients. Il nous semble fondamental de proposer cela à la sagacité de nos patients, non pas en tant que ce sont des choses exactes au point de vue scientifique, mais en tant que c'est une expérience humaine. avec lequel on peut tisser des liens, on peut tisser des représentations, on peut penser sa propre finitude. C'est quand la personne me dit « j'ai peur de mourir ». Et là, je leur dis « mais vous savez qu'il y a des gens qui sont morts et qui sont revenus ?» Alors ils me disent « bon, du doigt, t'es psy, mais t'es un peu gaga comme garçon ». Certains me disent même « oui, Jésus » ou autre. Et je leur dis « non, non, des gens comme nous, etc. » C'est un phénomène qui est connu, ça s'appelle les expériences de mort imminente. Et ce qu'ils en disent, ben, ma foi, moi je veux bien mourir. Et on commence comme ça, sur le ton de l'humour. Ce qu'on a repéré, nous, de manière clinique, c'est qu'en parlant de cela et en faisant lire des expériences de mort imminente, effectivement, on diminue le syndrome anxio-dépressif.
Bonjour.
Salut. Ça va ?
Le fait qu'il puisse y avoir quelque chose derrière, que ça puisse être confirmé, que ça puisse être connu, il y a certaines personnes qui me disent « c'est trop beau pour être vrai, donc c'est pas vrai ». Ça, c'est amusant. Mais c'est typiquement humain, quand on dit quelque chose est beau, etc. Il y a des êtres humains qui préfèrent des choses moins belles. Ça leur semble plus vrai.
Raconter la mort pour soulager la vie. C'est l'utilisation inédite d'un phénomène qu'aucun médecin, aucun scientifique n'a réussi à expliquer à ce jour. S'il n'est pas possible de confirmer que ces hommes et ces femmes sont revenus de la mort, il est impossible d'affirmer le contraire.
C'est un bouleversement de vie et il faut surtout que nous reconnaissions cette expérience comme étant l'expérience la plus importante de toute leur vie. C'est comme ça qu'eux la vivent. Alors si nous, en face, on se moque d'eux, on leur dit « mais non, c'est une hallucination », bien sûr, ça va avoir des effets délétères.
Comment se fait-il que dans des circonstances d'abord très, très variées sur le plan cérébral, des personnes très différentes vivent le même type d'expérience et la mémorisent d'une manière quasi parfaite ?
Est-il possible de revenir de la mort ? Existe-t-il une vie après la vie ? Nous retrouverons-nous tous dans l'au-delà ? À chacun son opinion, à chacun ses réponses.